ça marche. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il devrait y avoir un truc qui s'affiche. Voilà. Alors ce matin, je vous propose de continuer sur le thème qu'on a abordé ce trimestre. Et je vous propose de lire tout de suite le passage dans 2 Timothée 1, les versets 8, 6, 7 et puis 13, 14. Donc c'est Paul qui adresse cette lettre à son ami Timothée. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. En effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Et puis un petit peu plus loin, il lui dit « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as entendues de moi. Garde toutes les belles choses qui t'ont été confiées au moyen de l'Esprit-Saint qui habite en nous. » Alors cette seconde lettre de Paul à son ami Timothée est assez intéressante. Paul écrit cette seconde lettre à son ami et compagnon d'œuvre, Timothée. Et alors, ce n'est plus le Timothée des jeunes années, hein, ce n'est plus le Timothée timide et inexpérimenté qui avait 15 ou 20 ans plus tôt. Non, c'est devenu un homme mûr, un homme de Dieu accompli, servant Dieu avec efficacité. Et nous comprenons en lisant cette lettre que ce Timothée-là, il traversait un problème, une crise. Il était abattu. Il était prêt à lâcher sa mission. Il n'était pas loin d'abandonner. Alors d'une certaine manière, c'est rassurant de voir que même les grands hommes de Dieu passent par des périodes de découragement. Alors c'est pas ça qui est rassurant en soi. Ce qui est rassurant plutôt, c'est de voir comment Dieu prend soin d'eux et les entoure. Et nous apprenons au travers de cette seconde lettre comment gérer la situation. Et Paul l'encourage à quoi ? Il l'encourage à ranimer la vie de l'Esprit en lui, le don de Dieu, à rallumer la flamme de son amour et de son engagement pour Dieu. Car ce n'est pas un esprit de lâcheté, de timidité, mais d'amour, de force et de pondération, c'est-à-dire de sagesse, que Dieu nous a donné. Paul incite Timothée à se réveiller de sa torpeur. Il lui rappelle l'Évangile et son appel. Continue à servir. Retiens les paroles que tu as entendues. Retiens la foi et l'amour qui est en Jésus et qui t'a été donné par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors nous allons voir tout de suite, juste après, comment la Bible décrit l'Esprit de Dieu. Mais ce matin, je voudrais commencer par poser cette question. Que faire quand nous sommes découragés ? Que faire quand nous n'avons plus de motivation et que nous sommes prêts à tout abandonner ? Notre service, notre engagement, notre foi, notre vie chrétienne. Que faire ? Alors je vous invite à prier. Notre Père, nous te remercions d'avoir envoyé ton esprit dans notre vie. Esprit d'amour, esprit de force, esprit de sagesse qui nous remplit de ce que tu es. Et qui nous guide. Donne-nous ce matin d'entendre ta voix qui nous dirige. Renouvelle notre intelligence. Viens nourrir notre foi et notre espérance par ta parole. Amen. Alors donc, ce qui est passionnant avec la Bible, c'est que nous voyons que quand quelqu'un est découragé, accablé, prêt à tout abandonner, ben la Bible ne le méprise pas. Imaginez si on était à Koh-Lanta. Allez hop, dehors, éliminé. Mais ce n'est pas dans la Bible ça. Dans la Bible, on n'est pas disqualifié, on n'est pas le maillon faible. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, non, bien au contraire. On pourrait dire que Paul pourrait faire la leçon à Timothée. Il pourrait lui dire quand même, enfin Timothée, pour tout ce que Jésus a fait pour toi, tu pourrais un peu te prendre en main, te secouer, te remettre au travail. Ce n'est pas comme ça non plus que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que Dieu agit envers nous. Non, bien au contraire, la personne qui est découragée, nous voyons que la Bible l'encourage. Dieu prend soin de lui au travers de Paul, son ami. Paul encourage son ami et l'oriente vers le bon choix. Tu es fatigué ? Tu n'en peux plus ? Utilise un joker. Fais appel à un ami. Fais appel à ton ami suprême, celui qui réside en toi, qui demeure en toi pour cette vie et pour la vie éternelle. Fais appel à l'Esprit de Dieu. Réveille-le, ranime-le en toi. Arrête de t'épuiser. Arrête de donner ton amour. Fais appel à son amour. Cesse de ruminer ta faiblesse. Fais appel à sa sagesse. Car il habite en toi. Il est là pour te donner amour, force et sagesse. Alors ce que je vous propose ce matin, c'est de continuer de faire un petit focus sur qui est l'Esprit-Saint. Alors je ne vais pas vous faire le cours sur la Trinité ce matin, rassurez-vous, ouf! Si vous voulez, vous pouvez entendre l'enseignement du cercle biblique de l'automne là-dessus, ou alors lire un bon bouquin. Non, je voulais juste qu'on démarre par le tout commencement, de voir qu'est-ce que la Bible dit sur l'Esprit-Saint dès les premières phrases de la Bible. Et donc nous allons démarrer avec Genèse 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu, ou l'Esprit de Dieu, tournoyait au-dessus des eaux. Alors Dieu créa le ciel et la terre, on l'a chanté de plusieurs manières ce matin. Alors moi, quand j'étais petit, je croyais que le ciel, c'était le ciel bleu avec les nuages, hein, non ? Mais peut-être c'est plutôt Dieu créa le monde visible dans lequel nous évoluons, et puis le monde invisible, le monde spirituel. Et nous voyons que Dieu est donc au-delà de sa création, bien au-dessus. Et alors non seulement il est créateur, mais il vient d'une manière toute particulière, sous la forme de son esprit, d'un souffle. Et ce Dieu qui vient là, près de la terre, il est dit qu'il tournoie. Alors le verbe tournoyer, dans certaines traductions, c'est le verbe planer, hein, ou alors c'est le verbe couver, en hébreu c'est le même mot, comme la poule qui couve ses œufs pour les faire éclore. Dieu couve sa création comme une mère poule pour qu'elle puisse éclore. La chose que l'on apprend sur Dieu, c'est qu'il est préoccupé, il est intéressé par ce qu'il vient de créer. Alors certains pensent que Dieu a créé le monde et puis qu'il le laisse maintenant aller à la dérive parce qu'il s'en désintéresse. Mais non, la deuxième phrase de la Bible affirme le contraire. Dieu a créé le monde et il y vient, il s'y rend présent par son souffle, son esprit qui plane, qui couve au-dessus de la création. Il vient là au plus proche, il est présent, attentif, affairé, vigilant. Il n'est pas là-haut, tout là-haut dans le ciel. Il est aussi ici-bas sur la terre, en proximité, juste au-dessus, prêt à soutenir, à protéger, à intervenir. Alors une autre chose sur ce verset, quand on regarde le texte original à la loupe, le verbe planer n'est pas au passé comme dans nos traductions, mais il est au participe. Et ça indique le présent, un présent qui continue, qui dure. Et on voit donc que dès le deuxième verset de la Bible, Dieu déclare qu'il est présent par son esprit et qu'il est présent d'une manière présente, permanente. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais je n'en ai pas trouvé de verset qui nous dit que plus tard l'esprit est parti. Il n'y en a pas. Ça veut dire que s'il n'est pas parti, ça veut dire qu'il est toujours là. L'esprit plane et couve. Alors à cette époque, c'était au-dessus du vide et du chaos. Et grâce à l'action de l'Esprit, grâce à l'action de Dieu, le vide et le chaos ont été remplis de vie. La terre s'est remplie d'océans, de continents, de végétation, d'animaux volants, nageants, rampants, et même d'êtres humains. Et l'Esprit continue à planer, à couver la terre, toujours. Alors de nos jours, il existe un grand vide et un grand chaos dans le monde des humains. Et moi, je crois que l'Esprit plane et couve toujours pour apporter la vie. Voilà comment la Bible décrit Dieu dans les deux premiers versets. Dieu qui est à la fois au-delà, au-dessus de sa création, on pourrait dire transcendant, et Dieu qui est là, présent, immanent, intéressé, impliqué, qui couve. Et c'est le même Dieu qui couve encore notre monde. Alors aujourd'hui frappé par la pandémie, notre pays, notre ville, notre assemblée, nos familles, nos vies, il est bien là, il n'est jamais reparti. Alors je voulais passer à une deuxième chose, il n'y a aucune transition, c'est que dans le peuple hébreu, comment se manifestait l'Esprit ? Il nous est dit que l'Esprit se manifestait au travers de trois onctions particulières. Il y avait l'onction de prêtre pour s'occuper du tabernacle. Vous voyez la petite photo là, c'est des prêtres là, qui font leur sacrifice. L'onction de prophète pour parler de la part de Dieu. Ça nous a été encouragé ce matin hein, d'aller dire les choses de la part de Dieu. Et puis l'onction de roi, on pourrait dire d'exercice d'autorité au sein du peuple, hein, qui a été exercé par Moïse d'abord, et puis après par Josué, puis après par les juges, puis après par les rois d'Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ces trois onctions ? Qu'est-ce que ça nous apprend ? La première chose que ça nous apprend, c'est que le prêtre, le prophète, le roi, ils avaient besoin de l'intervention de Dieu, car ils ne pouvaient pas accomplir cette mission tout seuls par eux-mêmes. Lorsque Dieu donne une responsabilité à quelqu'un, Dieu l'accompagne, il s'engage avec lui, par sa présence, par son esprit, pour lui apporter ce dont elle a besoin, tout ce qui est de l'ordre du ciel, du divin. Dieu n'a pas besoin de prêtres qui exercent la prêtrise comme il en a envie, selon son bon vouloir ou ses propres idées. Non, Dieu souhaitait des prêtres qui se conformaient à ce que Dieu désire et demande. De même pour les prophètes, Dieu n'a pas besoin de prophètes qui vont dire leur propre opinion, leur propre pensée. Dieu a besoin de prophètes qui vont délivrer la pensée de Dieu, qui vont annoncer la parole de Dieu. Sur le transparent, là, j'ai mis un petit porte-voix. De la même manière, Dieu n'a pas besoin de rois qui vont diriger le pays ou exercer l'autorité d'une manière qui leur serait propre. Non, Dieu cherche et veut équiper des gens pour qu'ils puissent exercer l'autorité selon son cœur, selon sa façon à lui. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est suffisant d'avoir reçu l'Esprit de Dieu pour être un bon prêtre, un bon prophète ou un bon roi ? Eh bien non, bien sûr que non, parce que ce n'est pas la science infuse, ce n'est pas une garantie d'infaillibilité. On pouvait faire des erreurs. Il y a tellement d'exemples dans toute la Bible qui nous montrent ça. Par exemple, si on compare le roi Saül et le roi David, les deux ont reçu l'onction pour exercer l'autorité. Alors le roi Saül, il avait bien commencé, mais il a vraiment mal fini. Au lieu d'écouter Dieu, l'Esprit de Dieu qui était versé dans sa vie, il en a fait qu'à sa tête. Et si on regarde le roi David, il a bien commencé et il a mal continué aussi. Et c'est quoi qui a fait la différence ? C'est que le roi David, il a toujours cherché à retrouver la communion avec Dieu, au travers de l'esprit, du souffle qui était en lui. Il s'est repenti, il a recherché la face de Dieu, il a changé sa manière de voir les choses et sa manière d'agir. Et Dieu l'a toujours accueilli, restauré, remis sur pied. La seconde chose que nous apprenons, c'est qu'à cette période, il y avait vraiment très très peu de gens qui recevaient l'onction de Dieu. C'était réservé à des hommes ou à des femmes, beaucoup plus rarement, mais à très peu dans le peuple. Déjà, c'était réservé qu'aux Hébreux. Toutes les autres nations, ben, ils n'y avaient pas droit. Et ensuite, au sein des Hébreux, uniquement à ceux qui étaient prêtres, les descendants de la tribu de Lévi, et puis quelques-uns des prophètes, des prophétesses, quelques-uns des rois pour exercer l'autorité. Ça faisait vraiment très très peu de monde. C'était très restreint. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas là-dedans, qui en étaient exclus. Et vous voyez toute l'importance de cette promesse qui est donnée par Dieu, qui dit « En ce temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur tout être humain ». Nous pouvons vraiment apprécier l'importance de cette promesse. Et regardez maintenant, cette promesse, elle s'est réalisée grâce à Jésus, grâce qu'il a accompli sa mort, sa résurrection. Maintenant, des hommes et des femmes de tout peuple, toute nation reçoivent l'Esprit de Dieu. C'est magnifique. Même nous, la petite assemblée que nous formons, rien qu'au milieu de nous, nous avons des représentants du continent de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, de différents pays. Alors vous allez me dire, mais c'est bien tout ça, mais ces trois onctions, en quoi elles nous concernent, nous, au XXIe siècle? Alors tout d'abord, nous pouvons nous rappeler que ces trois onctions annonçaient Jésus, notre Sauveur. Lui seul a reçu pleinement ces trois onctions en même temps. L'onction de prêtre qui établit et entretient la relation spirituelle entre Dieu et les hommes. C'est l'Épître aux Hébreux qui explique que Jésus était lui-même le grand prêtre qui accomplit le pardon des péchés une fois pour toutes dans le sanctuaire éternel, pour un pardon permanent et durable. Jésus, c'était aussi le prophète accompli, complet, au travers de qui Dieu parle. Il avait reçu cette onction particulière de prophète. Là encore, la lettre aux Hébreux déclare que, autrefois, après avoir de bien des reprises et bien des manières parlé par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils, par son Fils, qui est le rayonnement de sa gloire, l'expression de sa réalité, qui soutient tout par sa puissante parole. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté. Et Jésus a aussi reçu l'onction de roi. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et nous voyons aussi une caractéristique particulière dans la manière d'exercer l'autorité de Jésus. Jésus est le roi, mais ce n'est pas le roi qui se positionne au-dessus de ses sujets, qui les écrase ou les tyrannise. Non, c'est le roi qui se met au service de ses sujets, le roi serviteur. Et ça, c'est une des innovations apportées par Dieu dans la fonction d'autorité pleinement révélée en Jésus. Alors nous voyons au moment du baptême de Jésus, l'Esprit qui se pose sur lui sous la forme d'une colombe. Voyons, on retrouve cette image de cet oiseau là qui couve, qui plane. Jésus a reçu l'onction. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le Christ ou le Messie, hein, puisque ces deux mots veulent dire celui qui a reçu l'onction. Alors vous allez continuer à me poser la même question, mais en quoi ça nous concerne, nous, au XXIe siècle? Eh bien, rappelons-nous la promesse. « Je répandrai mon esprit sur toute chair, sur tout être humain. » Tous les croyants reçoivent l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit présent qui plane et qui couve au-dessus de la création, il se dépose sur nous, les croyants, pour nous donner cette onction. Jésus lui-même, et Florence nous a relu les passages ce matin, hein, nous a dit qu'il nous enverrait son esprit, son propre esprit sur les croyants. D'ailleurs, le mot chrétien, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, mais quand il a été utilisé la première fois, on lit ça dans les actes, c'est parce que c'était une sorte de sobriquet pour dire c'est des petits Christ, c'est des chrétiens. Hein, c'est comme ils se prennent pour Jésus. Hein. Ils reflètent le même esprit que Jésus. Alors vous voyez, en petite parenthèse, on voit un petit peu comment la Bible s'articule. Au début, il y a l'Ancien Testament, la première alliance, qui annonce les choses qui vont être accomplies en Jésus. Et puis après, Jésus dit, ce que j'ai été dans le monde, ben vous allez l'être. Et je vous donne mon esprit, je vous donne mon onction pour que vous soyez cela. Et donc Jésus envoie maintenant son esprit, son onction sur tous les croyants, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité, leur pays d'origine. Le Saint-Esprit est répandu sur tout être humain. L'onction préfigurée dans l'Ancien Testament, accomplie pleinement dans la vie du Christ, se perpétue maintenant dans la vie de chaque croyante et de chaque croyant. Jésus nous le dit, le Saint-Esprit, alors dans Jean 14, il le disait à ses disciples, hein, le Saint-Esprit est auprès de vous et bientôt il demeurera en vous. » Et on voit à la Pentecôte que le Saint-Esprit est donné, répandu pour la première fois. Et nous, chacun de nous, nous avons reçu, nous qui croyons, nous avons reçu cette onction, la présence de Dieu dans notre vie. Alors je vous propose qu'on rebalaye les trois onctions de l'Ancien Testament pour voir en quoi ça nous concerne ce matin. Alors tout d'abord, l'onction de prêtre. Dans le Nouveau Testament, Pierre déclare que nous sommes un peuple de sacrificateurs, un sacerdoce royal, des prêtres. Et maintenant, nous n'offrons pas un sacrifice pour préfigurer le salut ou pour donner le pardon des péchés, ça c'est Jésus qui le fait. Nous offrons un sacrifice de louange, de reconnaissance, de gratitude envers Dieu. Ce que nous avons fait ce matin, par nos chants tous ensemble, Jésus déclare « Le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. » Alors dans notre relation avec Dieu, il y a beaucoup de choses que nous imaginons pouvoir faire par nous-mêmes, mais ça ne va pas aller très loin, n'est-ce pas ? Dieu, l'Esprit qui nous a oint, qui nous habite, nous apporte tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie spirituelle épanouie. Alors, je ne vais pas développer plus, on pourrait en parler plus longtemps, mais si tu es en panne dans ta vie spirituelle, un peu comme notre ami Timothée de tout à l'heure, ou alors, si tu as envie d'approfondir ta vie spirituelle, fais appel à l'Esprit qui est en toi, qui te couve pour faire éclore la vie en toi. Alors passons aux prophètes. Et là encore, peut-être ça va vous choquer, mais le Saint-Esprit nous appelle tous des prophètes. Alors je ne parle pas de ceux qui exercent le don de prophétie. Quoique Paul déclare « Vous pouvez tous prophétiser » et même il dit à un autre endroit « Je voudrais que tous prophétisent ». Ce qui donne une direction et montre définitivement que ça concerne tout le monde ici et pas simplement deux ou trois qui prennent la parole. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Oui, nous a été exhorté à oser ouvrir nos bouches, hein, au travers de ce que nous a proposé Anne-Laure. Mais le prophète, ce n'est pas celui qui parle de lui-même, il parle de la part de Dieu. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend que le prophète, c'est d'abord celui qui va écouter Dieu, pour ensuite redonner les paroles que Dieu dit. On voit dans l'Ancien Testament, quand le roi venait voir Élisée pour lui demander conseil pour la nation, ou quelqu'un qui venait voir juste Élisée, quelqu'un du peuple, pour sa situation personnelle, par exemple la veuve qui devait donner ses enfants en contrepartie de ses dettes, eh bien, Élisée prenait le temps d'aller poser la question à Dieu. Et des fois, Dieu lui répondait de suite. Des fois, c'était le lendemain, des fois, c'était 10 jours après ou un mois plus tard, mais Dieu lui répondait. C'est le prophète Ésaïe qui écrit cela. « Le Seigneur m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur, Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé. » Je ne me suis pas dérobé. As-tu soif d'entendre Dieu ? Te mets-tu à l'écoute régulièrement ? As-tu des réponses de Dieu pour toi ou pour ton entourage ? Grâce à l'onction que nous avons reçue, nous pouvons entendre Dieu personnellement. Alors désormais, sa manière la plus pratique pour nous parler, c'est au travers de la lecture de la Bible. Et puis aussi, c'est avec les frères et les sœurs. Alors bien sûr, hein, je le répète, mais l'onction de Dieu sur nos vies, ce n'est pas la science infuse et ce n'est pas la garantie de l'infaillibilité, c'est-à-dire qu'on peut faire des erreurs. Tu peux entendre la voix de Dieu, mais aussi, tu peux prendre tes désirs pour des réalités, tu peux te tromper. Et l'onction ne te préserve pas de l'erreur. Ce sont les frères et les sœurs qui vont t'en préserver. En général, ceux qui sont plus avancés que toi dans la foi, ils pourront mieux discerner ce que tu as cru entendre ou comprendre et t'aider. Alors passons à la troisième onction, celle de roi. Alors vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de rois et de reines parmi nous. Ça, c'est sûr. Surtout que nous sommes en République. L'actualité montre nos amis anglais et la couronne qui traverse un deuil. Alors tout le monde n'est pas roi ou reine. Moïse n'était pas roi, mais il avait reçu cette onction particulière pour diriger, pour conduire le peuple, pour exercer l'autorité. Et nous voyons dans son histoire que, à un moment donné, il n'en pouvait plus, il avait trop de travail, et on lui a donné un bon conseil, mais ne reste pas seul. Et son esprit, son onction, pardon, d'autorité, pour exercer l'autorité, a été répandue sur 70 personnes du peuple qui ont été là pour l'aider. On voit que les juges, hommes ou femmes, dans l'Ancien Testament, exerçaient l'autorité sur leur tribu, sur le peuple entier. Et on comprend quoi au travers de ça ? C'est que Dieu n'a pas envie du tout d'être confiné, si vous me permettez l'expression, dans le domaine spirituel ou religieux. Et Dieu, il s'intéresse à toute la société. Il ne reste pas cloisonné dans la vie religieuse, mais il veut s'investir dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie civile. Moi, j'ai peur que nous enfermions des fois un peu Dieu juste dans les histoires de l'Église. Non, mais Dieu, c'est tout le reste aussi qui l'intéresse. Et je crois que Dieu veut aussi nous équiper pour nous permettre d'être des figures d'autorité civile là où nous exerçons, là où nous vivons. L'onction d'autorité répandue sur tous les croyants et les croyantes leur permet d'exercer l'autorité selon Dieu là où ils se trouvent. Des figures d'autorité à l'image de Jésus, le roi serviteur. L'onction de l'Esprit nous apporte quelque chose du royaume pour accomplir notre rôle au sein de la société. En tant que parent, éducateur, professeur, instit, en tant que salarié dans une entreprise, manager, chef d'entreprise, en tant que soignant, médecin, quel que niveau que nous soyons dans la société, en tant qu'artisan, commerçant, Dieu veut nous donner son onction pour que nous soyons dans notre rôle. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de Martin Luther qui disait, c'est assez drôle je trouve, « Le croyant prie son Dieu, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. » Et Martin Luther rajoute, « Et le boulanger, depuis 3 heures du matin, il est déjà dans son fournil pour faire cuire le pain. » Vous voyez, l'imbrication de chacun dans la vie sociale. Dieu veut déverser en nous la même qualité que Jésus, le roi serviteur. Dieu veut nous équiper pour transformer notre société par sa présence qui est en nous. Alors dans le Nouveau Testament, on voit ces versets qui sont assez généraux, mais je pense que c'est un lien avec ça. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ou alors faites tout pour la gloire de Dieu. Ça concerne tous les domaines de notre vie. L'Esprit, son onction, sa présence proche nous permet d'être le parent, le professeur, le dirigeant, le salarié, le boulanger, l'éditeur, le médecin qui accomplit sa vie terrestre avec l'onction de Dieu. Ce n'est pas uniquement réservé à l'Église. Nous sommes appelés à vivre et à propager l'Esprit de Dieu dans tous les domaines. Je pourrais dire, si vous permettez, c'est le déconfinement de l'Esprit, les amis. Alors, dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'Esprit nous est donné. Ces trois onctions, elles perdurent. Mais le Nouveau Testament, il a une autre manière d'en parler. C'est un peu comme les trois mousquetaires, vous savez. Dans l'histoire des trois mousquetaires, en fait, ils sont quatre. Et bien là, dans le Nouveau Testament, il y a cette quatrième onction aussi. C'est l'onction, j'ai appelé ça l'onction de témoin. Florence nous a relu plusieurs textes. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Ce n'est pas une onction nouvelle, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle manière de parler de la même chose, c'est une réorientation. Nous sommes appelés à être des prêtres, pas seulement pour nous, mais aussi pour le monde qui nous entoure. Le prêtre, c'est lui qui entretient la relation avec Dieu et les hommes. À combien de nous c'est déjà arrivé que quelqu'un qui nous dit dans notre entourage « Mais toi qui es croyant, est-ce que tu pourrais prier pour moi, pour ma situation ?» C'est ça, tout simplement. Et les prophètes, nous sommes appelés à être des témoins qui vont dire, qui vont écouter les situations pour notre entourage et leur dire, mais tu sais que dans ta situation, Dieu peut t'aider, Dieu t'aime, Dieu t'accompagne. Et puis, notre onction d'autorité serviteur, là aussi, nous sommes auprès du monde des témoins, nous pouvons faire changer les choses tout autour de nous, dans notre société. Nous pouvons refléter l'Esprit de Jésus là où nous sommes. Alors je vais arrêter là. J'avais prévu une dernière partie, c'était comment favoriser la vie de l'Esprit en nous, mais on verra ça une autre fois. Comment l'entretenir? Qu'est-ce qui peut la favoriser, au contraire la réduire? Ça sera pour une fois. Nous allons arrêter là ce matin et revenir à notre premier passage. Je t'invite à ranimer la flamme de l'Esprit dans ta vie. L'Esprit, il est déjà là. Depuis la création du monde, il plane, il couve. Depuis que tu es né, il couve sur ta tête pour faire éclore la vie spirituelle en toi. Et elle est déjà éclose pour la plupart d'entre nous. Mais tu peux continuer à bénéficier de sa présence. Ouvre-toi à lui, invoque-le, appelle-le à l'aide. Peut-être dans certains domaines de ta vie, tu es fermé à sa présence. Ouvre-lui la porte. Alors je vous invite à prier. Peut-être je vous propose de vous lever. Seigneur, nous te remercions d'avoir envoyé ton esprit sur notre terre comme un souffle qui plane et qui couve. Merci parce que tu es intéressé et préoccupé, attentif à tout ce qui se passe sur notre terre, sur nos pays, nos villes, notre communauté, nos familles et nos vies personnelles. Telle une mère poule qui couve ses œufs pour les voir éclore et leur donner la vie. Nous te remercions d'avoir rendu cela possible grâce à l'œuvre de Jésus, sa mort et sa résurrection. Et nous te remercions d'avoir accompli cette promesse de répandre ton esprit sur toute chair, sur chacun d'entre nous, sur tous les croyantes et les croyants du monde entier. Merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit dans nos vies, dans nos sociétés. Merci de nous avoir oints, de nous avoir donné l'onction qui était sur Jésus, onction de prêtre qui nous apporte l'aide dont nous avons besoin pour entretenir la communion avec Dieu, la partager autour de nous. Onction de prophète qui nous donne la capacité d'entendre ta voix et de t'obéir dans le service et dans nos actions. Onction pour exercer l'autorité dans nos métiers, dans nos familles, dans notre société et dans l'Église, pour être des représentants du roi serviteur que tu es, Jésus. Viens ranimer en nous ton esprit. Aide-nous à recevoir pour nos vies et notre entourage que tu souhaites nous apporter pour nous enrichir de la vie du ciel. Amen.
Merci Loïc.